Bonjour à tous, bienvenue. Alors ce soir, comme des millions de chrétiens à travers le monde, on va souligner ce qui s'est passé il y a 2000 ans et ce qui nous donne notre espérance dans le monde à venir. Alors ce soir, comme dans les années passées, on va faire la lecture du récit de la Passion. Et cette année, on va s'arrêter un peu plus longuement sur les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Et il va aussi y avoir 7 messages. On a demandé 7 hommes dans l'Assemblée de faire un court message. Les lectures vont être faites par Sylvain Larose, qui va être à l'arrière. Alors, essayez pas de le trouver pendant qu'il parle. Et c'est pour vous donner l'occasion de bien vous concentrer sur le récit, de vous mettre dans le bain, dans l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Il va aussi y avoir des chants. Durant les chants, on vous demande de vous lever et de chanter à plein poumon. Maintenant, je vous invite à la prière. Qu'aubons-nous? Seigneur, quel privilège d'être ici. Quel privilège d'être ici alors qu'on sait que tant de chrétiens dans le monde risquent leur vie pour se réunir le Vendredi Saint. Seigneur, on pense à tous ceux qui sont au loin, que tu as sauvés autant que nous. Et ce soir, nous voulons non seulement nous rappeler ce que tu as fait, mais te rendre grâce pour ce que tu as fait. Merci de nous avoir donné cette parole qui nous rappelle ce que tu as fait. Merci pour ta grâce envers nous personnellement et pour ta grâce envers l'Église qui est ton corps. Amen.
Aussitôt, comme Jésus parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi !» et il l'embrassa. Alors, ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu de rien? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et portèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Conduisait en même temps deux malheureux qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
« Alors, dans ces premières paroles qu'on vient d'entendre, on voit ici le Fils de Dieu qui intercède pour un peuple coupable. En fait, dans le ministère de notre Seigneur, on voit souvent qu'il a parlé de ce pardon-là, le fait de remettre une dette, qu'il a utilisé plusieurs images, et puis même qu'il demandait, on le voit dans le Sermon sur la montagne, qu'il parlait de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et on le voit ici, qui est cloué sur une croix, maltraité, persécuté. Et on le voit qui prie, qui demande à son Père de pardonner ce peuple. C'est à lui aussi que Pierre avait demandé combien de fois, si c'était suffisant de pardonner 7 fois à quelqu'un, un frère qui péchait contre nous. Et notre Seigneur avait répondu d'une manière assez directe qu'il devait pardonner 70 fois, 7 fois. Et puis on le voit ici sur la croix qui met en pratique, qui démontre d'une façon puissante que même dans les pires souffrances, dans les pires souffrances atroces, qu'il demande à son Père de pardonner ce peuple. Et puis, ce même peuple-là qui, 1500 ans avant, avait dû, qui avait rejeté Dieu en prenant vous rappelez, le veau d'or, et qu'on voit Moïse qui avait dû monter sur la montagne et demander à Dieu de pardonner le peuple, et dit « Pardonne ce peuple » ou efface mon livre, mon nom de ton livre, du livre que tu as écrit. Et puis l'Éternel avait répondu à Moïse, il avait dit, celui qui a péché, c'est son nom qu'on va enlever du livre. Tandis que quand on arrive au Seigneur ici, qui demande le pardon, le Seigneur est, Dieu est silencieux, et puis c'est lui qui prend toute la condamnation qui pesait sur le peuple. Et plus tard, quand Pierre va parler de ces souffrances-là, il va dire, quand on voit dans les paroles, je fais référence ici, quand le Seigneur dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », mais Pierre parle de ça ici et dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts ». Et plus tard, Pierre va dire aussi « Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Mais il dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Et c'est une porte de salut que le Seigneur demandait, parce que c'est sûr que la colère de Dieu pouvait tomber sur le peuple, mais il dit, garde, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et moi, ça me fait penser aussi quand Isaïe parlait de ce Messie-là qui devait souffrir. Et je vais vous lire juste une petite parole dans Isaïe 53, qu'on connaît très bien. Ce ne sera pas bien long, je vais le trouver ici. En fait, placez-vous dans ce contexte-là où est-ce que, de ce qu'on vient de lire, le Seigneur qui est cloué sur une croix, au milieu des brigands qu'on a parlé et qui demande le pardon. Écoutez bien les paroles d'Ésaïe, dans Ésaïe 53, verset 12. Il dit, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. » 1. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et aussi, il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres !» Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
1 Corinthiens 1, verset 21, nous dit, « Car le monde, par sa sagesse, n'a point connu Dieu. » Je pourrais dire que le monde, dans sa sagesse, n'a point connu l'Évangile non plus. Quelle philosophie humaine pourrait nous amener à la croix? C'est-tu l'humanisme? Le consumérisme? Je pense au fédéralisme, le souverainisme, le conservatisme, le libéralisme, le NDPisme et le vertisme. La sagesse du monde et la sagesse de Dieu sont aux antipodes. L'un représente la folie pour l'autre. Et si on n'a jamais ressenti cette tension-là entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde, bien, on n'a pas suffisamment médité la croix. On est tellement habitué, nous, au concept d'un Christ crucifié ou mourant qu'on oublie comment que c'est choquant pour les gens de l'époque. Le Christ, c'était le sauveur, c'était le libérateur, le roi qui venait régner sur le peuple d'Israël. Et le Messie crucifié, c'était comme un blasphème. L'histoire du malfaiteur dans notre texte ici pousse plus loin encore cette tension. On dit la sagesse de Dieu, la folie pour les hommes, bien non seulement un Messie crucifié, mais aussi un Messie crucifié pour pardonner des rebelles. On a un Messie crucifié qui promet le salut à un malfaiteur condamné. Si on regarde de plus près, en verset 41, il dit, « Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ici, on voit que le malfaiteur prend la défense de Jésus. Mais en Marc 15, c'est drôle de dire, de voir que, évidemment, auparavant, il insultait Jésus avec les autres. Marc 15, 31 dit, « Les principaux sacrificateurs ainsi les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende de la croix, afin que nous voyions et nous croyons, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. » Donc, on voit que le malfaiteur, lui aussi, se moquait du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu pour provoquer un changement comme ça? Bien, nous ne savons pas. Les deux événements arrivent tout de suite après la crucifixion, puis la prochaine chose dans le texte nous dit que c'était la 9e heure. Donc, c'était dans une période de 3 heures que Jésus était sur la croix. Mais, il s'est rendu. Sa sagesse, ça fait du top. Sa sagesse, ça fait des tonneaux, là, puis il est viré à l'envers. Il a compris ce qui se passait là aux yeux de Dieu. Et le résultat dans son cœur, c'était deux choses. Un, la repentance. Il y a un changement de direction, un changement d'attitude. On peut voir les deux versets où il se moquait de lui et là, il prend la défense de Jésus. Donc, il y a évidemment eu un changement de pensée. Il y a aussi la foi. Il pose une requête au Christ. Il demande, il met sa destinée entre les mains de Christ en disant, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et la réponse de Jésus est tout à fait étonnante si on se met dans le pot des gens à l'époque. Jésus qui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a des questions drôlement apologétiques et théologiques autour de ce texte-là. Les témoins de Jéhovah qui tassent une virgule, qui changent complètement la phrase. On pourrait se poser la question, où est-ce que Jésus était entre sa mort et sa résurrection pour que le malfaiteur soit avec lui? Mais ce n'est pas ça notre but aujourd'hui. Moi, j'aimerais mettre l'emphase sur le Messie crucifié qui promet le salut à un malfaiteur coupable et condamné. Quel système philosophique aurait pu le prédire? Quel système de pensée, quelle religion pourrait nous amener justement à cette conclusion-là? Un Messie crucifié qui promet le salut à un malfaiteur condamnable. Le verset Romains 4, 5 est très puissant. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. sa foi lui est imputée à justice. Qui croit à celui qui justifie l'impie. Sans baptême, sans acte de service, sans aumône, sans flagellation, sans mutilation, sans consécration, sans service, il reçoit le pardon de son Seigneur. Je connais un homme, un catholique croyant, pratiquant relativement, mais qui n'accepte pas le salut du criminel sur la croix. Ça lui bouleverse trop dans sa sagesse à lui. Lui qui a mené une bonne vie, qui a fait des actes, qui a bien élevé ses enfants. Et pour lui, c'est choquant. C'est choquant qu'un Messie crucifié puisse promettre le salut à un malfaiteur. Ça s'attaque à sa justice propre. Et lui, il rejette ce message-là. Mais moi, je pense, vous aussi, on ne peut que remercier Dieu d'avoir révélé à nous sa sagesse et la folie de mes pensées, mes raisonnements quand je suis laissé à moi-même. On ne peut que remercier Dieu de sauver des impies, des pécheurs, des malfaiteurs, parce que je suis, nous en sommes. Merci de nous arracher à la mort, comme cet homme sur la croix mourant, que, probablement rendu maintenant, il y a quelques centaines, quelques milliers d'années, il était déjà avec son sauveur au paradis.
C'est à cause de
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
Maintenant, nous sommes rendus à cette troisième parole de notre Seigneur. Cette fois, il a prononcé des paroles sur la croix. Vous savez que celui qui était sur la croix était en même temps Dieu et homme. 100% Dieu, 100% homme. Et c'est dans cette parole sur la croix que nous voyons plus son humanité. Et j'aimerais vous suggérer trois raisons pour lesquelles cette parole de Jésus sur la croix devrait nous encourager fortement. D'abord, si notre Seigneur a ainsi pris soin de sa mère dans l'heure de son besoin, dans l'heure du besoin de sa mère, combien de plus il prendra soin de nous, ses disciples, qui obéissons à sa parole? Dans notre pensée, nous pouvons dire, mais oui, c'est normal qu'il s'occupe de sa mère. Mais il faut se souvenir de ces paroles qui viennent de l'Évangile de Luc au chapitre 8, où nous lisons que la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Vous savez que nous prenons des risques lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Mais cela nous place dans une relation avec Dieu, le Père, avec Dieu, le Fils, beaucoup plus intime que notre relation avec même les membres de notre famille, puis la relation de Jésus avec sa mère. Si Jésus a pris soin de sa mère dans l'heure de son besoin, combien plus il prendra soin de nous? Deuxièmement, si Jésus a ainsi pris soin des besoins des siens, au moment de sa plus grande faiblesse, son humiliation, pendant d'intenses souffrances, dans son humanité puis sa pauvreté, combien plus il peut prendre soin de nous maintenant qu'il est exalté, il est à la droite de la majesté en haut, il est Seigneur des seigneurs et roi des rois, il est riche au-delà de toute notre imagination. Paul a dit comme si dans l'Épître aux Éphésiens, il a dit comme ceci, « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Jésus a pris soin de sa mère au moment où est-ce qu'il était fragile, faible, humilié, profondément pauvre. Combien plus qu'il peut prendre soin de nous aujourd'hui? Et troisièmement, cette parole est encourageante parce que c'est pour nous une illustration des bénéfices qui sont à nous à cause de notre place dans l'Église. Comprenons le contexte ici. Il semblait que Joseph, le père humain de Jésus, est mort. Et selon la culture du temps, mais c'est Jésus qui doit prendre soin de sa mère. C'est son devoir. Il est mourant. Les frères de Jésus l'avaient rejeté. Ils ne sont pas présents à la croix autant qu'on le sache. Jacques, du moins, s'est converti seulement lorsque le Christ ressuscité lui est apparu. Sans doute, l'opprobre du Christ rejeté et crucifié, le rejet de Jésus par les rabbins, par les pharisiens, par les scribes, par le souverain sacrificateur, a brisé la relation entre Jésus et ses frères, et parce que Marie a suivi son fils Jésus, sans doute entre les frères et Marie aussi. Marie aurait été son soutien dans une société où les femmes qui faisaient face à cela, mais c'était la pauvreté extrême, pas de bien-être, pas de pension de vieillesse, pas de supplément, pas de régime de rente du Québec, rien. Mais Jean, disciple du Seigneur, apôtre et futur leader de l'Église, prendra soin de Marie. Vous savez que dans l'Église primitive, prendre soin des veuves et des pauvres, mais c'était important. Puis Paul même donne les instructions dans ce sens à Timothée. Quel privilège pour nous de faire partie de l'Église locale et de l'Église universelle. Quel avantage, mais aussi quelle responsabilité nous avons comme Église locale de prendre soin les unes des autres.
À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Ce qui se traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
La quatrième parole de Jésus sur la croix est la phrase la plus mystérieuse de la révélation biblique. Il y a des non-chrétiens qui ont suggéré que Dieu, que Jésus avait douté ou qu'il était tout à coup désillusionné. Il avait perdu ses illusions d'être le Messie. Mais Jésus cite le psaume 22, verset 2. Et c'est ce psaume-là qui décrit la passion dans ses détails. Son apparence inhumaine, les insultes et les moqueries du peuple, les mains et les pieds percés, les os intacts, les vêtements partagés et la tunique tirée au sort. Tout ça est du psaume 22. Pourquoi un désillusionné citerait un texte particulier de l'Ancien Testament qui décrit tout ce qui est en train de se produire? Non, Jésus savait qui il était. Le Fils du Dieu Très-Haut, le Messie. Mais pour le chrétien, il y a une question qui demeure. Est-ce que Jésus a vraiment pensé que Dieu, son Père, l'a abandonné? Comment Dieu le Père pourrait abandonner Dieu le Fils? Jésus lui-même, durant tout son ministère, a affirmé que le Père et lui ne faisaient qu'un. Alors, comment est-ce qu'il a pu dire et penser ça? La réponse, eh bien, elle est toute simple. Parce que le Père a effectivement abandonné le Fils. Sur la croix, Dieu le Père a déclaré le Fils coupable des péchés de l'humanité depuis la fondation du monde jusqu'au jugement dernier. Et le Dieu trois fois saint ne peut pas tolérer le péché, alors il a coupé la communion qu'il avait avec le Fils. À ce moment-là, Jésus ne pouvait plus dire « Moi et le Père sommes un ». Il ne pouvait plus dire, comme dans Jean 16, 32, « Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Ou en Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. » Non, Jésus, à ce moment-là, s'est effectivement retrouvé seul. Seul chargé de la culpabilité du péché d'Adam et soumis à la colère de Dieu. Une colère qui s'est exprimée par la cassure de la relation la plus intime qui existe dans l'univers visible et dans l'univers invisible. Mais cet abandon ne s'est pas produit dans la mort physique de Jésus-Christ, mais avant sa mort physique. Jésus a d'abord vécu la mort spirituelle. Le récit de la Passion nous apprend que pendant 3 heures, il règne une obscurité, des ténèbres anormales en plein jour. Le ciel est noir. Et pendant ces 3 heures, Jésus souffre de façon atroce. Les ténèbres que tout le monde constate à ce moment-là sont une représentation des ténèbres qui pèsent sur Jésus. L'abandon de Jésus-Christ porte la marque de l'enfer de 3 manières. La souffrance physique, la détresse spirituelle et le jugement divin. La mort que Jésus a expérimentée avant sa mort physique est la seconde mort, celle-là même que vivront ceux qui seront jetés en enfer. La seconde mort, c'est celle de la séparation complète d'avec Dieu. C'est l'horrible réalité d'être abandonné par Dieu. Et c'est ce que Jésus a vécu sur la croix. L'abandon complet par Dieu le Père. On a peine à imaginer la douleur de Jésus, mais imaginez la souffrance du Père. Abandonner son Fils, le charger volontairement des péchés du monde alors qu'il était parfaitement innocent? On ne comprendra jamais ce que Dieu a vécu lors de la crucifixion. Mais une chose est certaine, le salut qu'offre le Dieu de l'univers a eu un coût qu'on ne pourra jamais rembourser et qui appelle à notre reconnaissance et à notre humilité. Que grâce et gloire soient rendues à notre Seigneur et Sauveur.
Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche.
Cinquième parole de notre Seigneur Jésus sur cette croix. Malgré sa simplicité de ses paroles, « J'ai soif », ça renferme un sens plus profond. J'aimerais faire trois observations sur notre texte, surtout particulièrement le verset 28. Premièrement, il y a une mention particulière de la conscience de Jésus quand il dit ses paroles. Après cela, Jésus savait que déjà tout était achevé. On a émis dans certains articles l'hypothèse que Jésus ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. C'est un complot politique ou quelque chose comme ça, puis il s'est fait enrôler dans quelque chose. Et on peut poser la question, est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'il était en train de faire? Et la façon que Jean dresse le portrait dans Jean chapitre 19 nous révèle beaucoup en ce qui concerne l'intention de l'auteur, mais aussi le sens de cet événement. Particulièrement, il y a trois phrases qui reviennent à trois reprises. Une phrase qui revient à trois reprises. Au verset 14, il dit « C'était la préparation de la Pâque ». Et ça revient trois autres fois dans le chapitre, au verset 31 et 42. Et ça fait immédiatement référence à Exode chapitre 12, qui nous parle des plaies de l'Égypte. Et particulièrement, la dixième plaie. La dixième plaie par rapport aux neuf autres, c'est que jusqu'à ce point-là, il y avait une différence entre Israël puis les Égyptiens. Mais à la dixième, il y a quelque chose de nouveau qui est introduit, une condition. Et dans Exode 12, il est dit que « si je vois le sang, je passerai par-dessus ». Et la fonction des plaies est claire. C'est un jugement pour le péché. Et le sang de cet agneau qui a été sacrifié servait de substitution pour les personnes qui étaient dans cette maison. Et dans le contexte de Jean, Jean veut nous montrer le sens de ce qui est en train de se produire ici, c'est qu'il est en train de subir le sacrifice pour nos péchés. Il le savait. Est-ce que Jésus savait? Oui. Après ça, que Jésus savait, il dit, « J'ai soif ». Deuxièmement, soulignons l'importance des paroles « J'ai soif ». C'est la seule parole sur les sept qui est mentionnée qu'elle accomplit de façon explicite les Écritures. Verset 28, il dit « Afin que l'Écriture soit accomplie ». Probablement faisant référence au psaume 22 ou encore probablement le psaume 69-22 qui nous dit « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Et Jean veut qu'on comprenne que toutes les parties du plan de Dieu est en train de s'accomplir. Troisièmement, quelle ironie. Dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme celui qui détient les sources d'eau de la vie et c'est lui qui, en agonie, est présent et qui dit « J'ai soif ». Mais en même temps, un homme flagellé, qui avait une perte de sang, cloué sur une croix, au soleil, en Israël, serait déshydraté. En fait, ça faisait partie du supplice, la déshydratation, puis la sensation de la soif. Mais pourquoi? Si on admet que le péché, parce qu'en fait, il est en train de nous dresser un portrait de ce que je mérite, c'est-à-dire je mérite d'être séparé de mon Créateur, mais il faut qu'il souffre physiquement. Et on peut poser la question, quelle est la relation entre les souffrances physiques et le péché qui est d'ordre moral? L'horreur physique et le monde de souffrance dans lequel on vit sert d'image pour l'horreur de nos péchés. Il a permis au péché d'entrer dans le monde pour faire une place à Jésus-Christ pour venir mourir sur cette croix. 2 Timothée 1, 9 et 10 nous dit qu'avant, dans toute l'éternité, il a commandé la croix. C'est le sommet de la révélation de la grâce de Dieu, la croix de Jésus-Christ. Romains 5, 8 nous dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu devient clair au moment où il meurt pour nous. S'il n'y a pas de mort, la gloire de la grâce de Dieu ne peut pas éclater. Méditons encore un instant sur Jésus. Seul et abattu, fuyant ce défunt de la plus grande honte, comment expliquer? Les disciples sont partis. Il est seul sur cette croix, la famille est en larmes. Pourquoi? N'avions-nous pas trouvé le Messie? Il fallait qu'il meure. Ne pouviez-vous pas le croire? Vous êtes si lent à croire. Il devait en être ainsi. Les prophètes l'ont écrit. Le Christ devait souffrir. Quand ils disent quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais comment expliquer que celui qui a la vie éternelle, l'eau de vie, c'est le même qui crie en agonie, j'ai soif. On l'insultait, lui crachait au visage. Toi qui as sauvé les autres, tu ne peux te sauver. Descends de cette croix et nous croirons. Et dans cette faiblesse incomparable, il crie en agonie, j'ai soif. Comment être insensible à ce roi crucifié pour toi? C'est au milieu de ses tourments qu'il accomplissait la volonté du Père. Alors qu'il semble abandonné, l'Écriture s'accomplit. Ses blessures ont porté nos péchés afin d'avoir la vie. Regarde les marques qu'il porte pour toi, cette couronne d'épines. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La croix lui a servi de trône, la couronne d'épines de couronne, et sur cette croix, la grâce coulait comme son sang, afin que nous puissions avoir la vie. Telle fut la gloire de la grâce de Dieu.
quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. »
Comment ça, tout est accompli? Ça n'a pas de sens. Un homme qui a fait tellement de bien sur la terre, un homme qui a même fait des miracles, des gens qui ont cru en lui, qui espéraient qu'il soit le Messie qui viendrait le délivrer le peuple d'Israël, des gens qui l'ont rejeté, qui l'ont crucifié, il a accepté tout ça, et comme sixième parole, il va dire « Tout est accompli ». Ça n'a pas de sens. C'est le genre de réflexion que j'avais lorsque j'étais jeune, enfant, et même jeune adulte, lorsque j'écoutais ou lisais j'entendais parler de la parole de Dieu, ou lorsque j'écoutais des films sur la passion. Ça n'a pas de sens, tout est accompli. Et pourtant, oui, tout est accompli. Cette parole-là, elle est des plus importantes parce qu'elle vient donner l'heure juste sur l'appréciation de Dieu à l'égard de l'œuvre de son Fils. Le verset 28 qu'on a lu tout à l'heure nous a démontré que le Seigneur Jésus, en disant « J'ai soif », accomplissait l'Écriture. Le Seigneur Jésus a toujours accompli ce qui était écrit de lui dans l'Ancien Testament. Tout ça s'est parfaitement accompli selon ce qui était annoncé. Et même lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre et que les gens lui demandaient ce qu'il venait faire, il pouvait dire « Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père ». Accomplir la volonté de son Père était même sa nourriture quotidienne. C'était sa raison de vivre, sa raison d'être. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus était venu pour accomplir. Mais en accomplissant la volonté de son Père, ça devait le mener à un endroit qui était terrible, c'était à la croix du calvaire. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour l'être humain. C'est que dans le plan de Dieu, la croix était la destination auquel son Fils devait se rendre. C'était prévu, c'était annoncé et c'était même nécessaire pour vous et pour moi. Il fallait que le Seigneur Jésus se rende jusqu'à cette croix afin que lui, sur la croix, il puisse accomplir parfaitement la volonté de Dieu en donnant sa vie pour vous et pour moi. Mais en disant « tout est accompli », c'est parce qu'il a accepté de payer à votre place, à ma place, le châtiment qu'on méritait. Et ce terme-là, payer, est important. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus dit « tout est accompli », le sens profond, original de ce mot-là en grec, ça veut dire tout simplement que c'est entièrement payé. Un peu comme si aujourd'hui vous alliez acheter quelque chose avec une facture et que vous repassez et qu'on va inscrire dessus « payer » parce que la dette est payée. Eh bien, à cette époque-là, c'était fréquent aussi qu'on utilisait cette expression-là. Que ce soit lorsqu'un serviteur se présentait devant son maître pour lui dire que tout avait été fait, tout était achevé selon ce qui avait été demandé, c'était ce mot-là qui était utilisé. Et lorsqu'une dette était entièrement remboursée, c'était ce mot-là aussi qui était utilisé. Donc, lorsque le Seigneur Jésus prend la peine de dire que tout est accompli, c'est parce qu'effectivement, la dette de vos péchés, de mes péchés, il l'a payée sur cette croix. Pendant ces heures qui nous ont été signalées tout à l'heure, pendant qu'il y avait des ténèbres, de l'obscurité, le Seigneur Jésus souffrait à votre place et à ma place sur la croix. Et le Seigneur savait, en disant cela, qu'il venait d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu et entièrement la volonté de Dieu par amour pour vous et par amour pour moi. Mais vous savez, il y a une caractéristique commune à toutes les religions. C'est « faites quelque chose, faites ceci, faites cela, accomplissez ceci, accomplissez cela. » Et peut-être que l'homme va essayer de se gargariser en se disant qu'il a accompli quelque chose. Mais ce n'est pas ça du tout que Dieu veut. Les religions ont comme caractéristique commune de faire quelque chose. Le Seigneur Jésus, lui, vous a dit, « Tout est accompli. » À nous de l'accepter.
Il était déjà la sixième heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira.
Juste avant sa mort, notre Sauveur Jésus-Christ a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ça nous démontre que malgré tout ce qui a pu endurer, Jésus est encore au contrôle. Malgré le fait qu'il a été abandonné du Père, il a reçu tous les péchés des élus sur lui. Il détenait encore tous ses pouvoirs, mais il choisissait de ne pas s'en servir par amour pour nous. Malgré qu'il a été torturé, battu, cloué sur une croix et qu'il a eu de la misère à respirer pendant des heures, c'est pas les hommes qui ont tué Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Comme c'est écrit dans Jean 17 et 18, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. » Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Réalisez-vous que ce n'est pas les hommes qui ont tué Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Quand il a prononcé les paroles qui sont derrière moi, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est là qu'il a réalisé, il savait que c'était le temps pour lui de donner sa vie. Il avait fini de payer pour nos péchés en étant cloué sur la croix. Il était l'heure pour lui de mourir. Il savait que tout était accompli, comme il venait juste de dire. Et réalisez-vous la grandeur de tout ce qu'il a accompli à la croix? Il nous a remis en relation avec Dieu. Pensez-y à ça. On était complètement séparés de Dieu par nos péchés. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire pour obtenir sa faveur. Il nous a donné la faveur de Dieu. On n'a pas besoin de passer par des sacrements et des pénitences comme l'Église populaire nous l'enseigne pour obtenir la faveur de Dieu. On n'a pas besoin de faire des prières, des pèlerinages comme l'Islam nous enseigne pour obtenir la faveur de Dieu. Et on n'a pas besoin de lire la Bible puis prier pour obtenir la faveur de Dieu comme souvent on est porté à le croire. Si on fait ces choses-là, si on lit notre Bible et on prie, c'est pour se rapprocher de Dieu et non pour obtenir sa faveur. Si on fait quoi que ce soit pour tenter d'obtenir la faveur de Dieu, on est en train de dire à Dieu, « Ton sacrifice-là, c'est pas assez, il faut que j'en fasse plus pour obtenir ta faveur. » Mais je veux vous dire ce soir que le sacrifice de Jésus, il est assez. Mais par-dessus tout, ce que Jésus a accompli à la croix, c'est qu'il nous a acheté le pardon de nos péchés. Il a satisfait la colère du Père contre le péché, contre nous. Et puis moi, je suis vraiment content ce soir de pouvoir me compter parmi ceux que contre qui le Père n'est pas en colère. Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Prenons ce soir non seulement pour nous rappeler de ce que le Fils a fait, mais aussi pour le remercier. Pour le remercier de nous avoir remis en relation avec le Père. Pour le remercier de nous avoir donné la faveur de Dieu. Et pour le remercier de nous avoir acheté le pardon pour nos péchés. Pour le remercier d'avoir satisfait la colère du Père. Remercions-le.
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il est accouché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et quand Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue, Marie. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. »
Lorsque je pense de l'histoire de l'humanité, et on recule jusqu'à où vous voulez, à Tigalon, les Goths, Davis Goths, de l'ancienne histoire, tous les réformateurs, tous les rois, les règnes qui ont passé, les, ceux qui ont comme naviguer la terre pour découvrir et de planter le drapeau de leur pays. Les fondateurs du Canada, des États-Unis. Il y a une chose que l'on peut dire de tous ces gens. Ils sont morts. Mais il y a juste un qui a passé dans l'histoire. La tombe était ouverte. La pierre était roulée. Puis les guenilles qu'il avait, dans lesquelles il avait emballé étaient toutes là. Il avait disparu. Il était ressuscité. Le seul qu'on peut dire. Ressuscité. He is alive. Aujourd'hui. The gates and doors were barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound. Half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. There was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told us where she'd been. She said they moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away, and now his body isn't there. We both ran toward the garden, Then John ran on ahead. We found the stone, the empty tomb, just the way that Mary said. But the winding sheet they'd wrapped him in was just an empty shell. And who or where they'd taken him was more than we could tell. Something strange had happened there, but just what I didn't know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me high, 'cause I had seen them crucify him. Then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, things wouldn't be the same. Filled with a strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and clung to him. Again, and as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight through the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted into peace. He's alive, he's alive, he's alive, and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive, he's alive. Oh, he's alive, and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide.
Maintenant, je voudrais vous inviter à prier des prières de remerciement, d'adoration à celui qui est vivant et à qui on doit notre salut et notre avenir. Alors, je demanderai à 4 ou 5 personnes de prier et je vais terminer la prière. Prions.
Christ en chemin vers le calvaire. Thank you.